bien, pour ce tourne-page, nous avons pensé avec Marie-Lise, avec qui je suis, merci d'être à Radio Grand Ciel, parler du livre de Sorge Chalandon, Le jour d'avant. C'est un roman exceptionnel, je dirais, en tout cas, que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, et j'avoue, quand je l'ai pris, je ne l'ai pas quitté. Voilà.
Et je me doutais bien, en le lisant, parce que je l'ai acheté dès sa sortie, parce que je suis vraiment une inconditionnelle. J'ai pensé effectivement à Raymond en me disant qu'elle va aimer ce livre, et je ne savais pas certains plans de lecture qu'elle apprécierait plus particulièrement, outre les autres.
Oui, alors aussi l'intérêt de ce livre, c'est un roman bien tricoté, donc, mais ça, on choisit quand même à Radio Grand Ciel des choses qui sont plutôt bien tricotées, du moins je crois. Mais aussi un roman que l'on peut lire autour de différentes clés. Alors, le cadre, c'est un retour sur la catastrophe de Liévin en 1974, à la mine. Il y a 42 morts. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Je me rappelais d'ailleurs encore de ce fait divers. Et donc, il y a le monde de la mine. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que j'étais enfant. Je me souviens de drames dans le bassin houillé où ma famille travaillait, puisque c'est comme ça. Et c'est vrai qu'une catastrophe à la mine affecte tout le territoire, pas simplement parce que c'est l'économie et puis les familles des mineurs, etc., mais parce que de toute façon, chacun a dans sa famille un mineur, un oncle mineur, un frère mineur, un cousin mineur, et qu'on sait que lorsqu'on descend, eh bien, on n'est pas sûr de remonter, ce qui entraîne une solidarité particulière. Et ça, je l'ai retrouvé dans ce roman, et encore plus parce que c'est la solidarité de deux frères.
Alors là, c'est évidemment moi, j'ai pas ce passé d'en haut, même si j'ai connu plus tard les corons que j'ai fréquentés, mais évidemment l'amour pour fraternel, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. D'ailleurs, il a écrit, je pense que vous en a parlé, je suis plus tout à fait sûr, un livre qui s'appelle Une promesse, qui est, alors ça, il y a moins de clés que dans celui-ci, mais il y a tout le long la promesse faite à ses frères, l'amour qu'on porte à ses frères, et ça, c'est là aussi il y a ça sur un autre plan. On sent que ça, enfin, c'est une. On peut pas dire que ça domine parce que beaucoup de choses dominent. Et pour revenir à la catastrophe de Liévin, évidemment, les plus jeunes ne vont pas connaître, mais s'ils ne connaissent pas, voilà, ils lisent ce livre et ils comprennent tout ce passé tellement c'est ciselé. Comment c'est bien écrit, comment c'est détaillé. Je trouve que c'est remarquable, aussi bien dans les paysages que dans les paysages au fond, parce qu'il y a des paysages au fond de la mine aussi.
Alors c'est vrai aussi que le, alors en ce qui concerne troisième clé de lecture, ça ferait l'histoire, parce que là, plutôt qu'un livre d'histoire qui va vous raconter la mine, c'est comme si, c'est comme ça. On lit ce livre et puis on est placé dans un univers où il y a les bruits, où il y a l'espace de la mine, le soin que l'on doit avoir pour éviter le grisou, l'eau que l'on doit mettre pour empêcher justement ce gaz de s'accumuler. Donc il y a véritablement là les vêtements,
les couleurs de la peau, les couleurs de la peau aussi.
Alors ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement frappée parce que personnellement, j'avais un oncle, il avait le visage plombé. On avait l'impression qu'il ne s'était jamais lavé. Enfin, et je revois aussi le visage de mon père qui était charbonnier, Bougnat, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est quelque chose aussi. Ce monde de la mine et ce charbon qui va jusqu'à marquer les corps. Alors il y a certainement qu'aujourd'hui, les gens qui fréquentent les ordinateurs ont la vue qui est atteinte, mais là c'était véritablement visible, et puis aussi la silicose, les poumons, les bronches, enfin, il y a là tout cet espace de la mine du mineur, mais aussi une histoire, une géographie, la description des paysages du Nord, avec les terrils sur lesquels peut pousser un pommier. Moi, j'aime beaucoup ce passage où le grand frère explique au petit qu'il peut y avoir des pommiers. Et là aussi, c'est un clin d'œil dans les zones les plus difficiles et dans les mondes les plus difficiles, il y a toujours la possibilité d'avoir quand même une petite fleur, celle qui pousse dans le cœur, mais là, c'est représenté par le pommier. Et puis, il y a aussi l'univers familial. Il n'y a pas que l'amour fraternel, mais il y a aussi tout l'univers familial avec ces paysans mineurs. Donc, il y a aussi l'univers des fermes. Et puis, dans ces milieux âpres, durs, eh bien, finalement, si un s'en va, les autres vont prendre la terre. Et finalement, peut-être que la mort de quelqu'un, quelque part, en avantage d'autres. Donc, il y a aussi l'intrigue des relations familiales, l'intrigue autour de l'héritage. Enfin,
et le père. Et puis, la figure du père qu'on retrouve dans d'autres livres aussi, qui est... Ben c'est pas le commandeur, mais enfin, il y a un peu de ça quand même, quoi.
Et ces promesses pourries, enfin, ces promesses familiales qui vous pourrissent la vie, oui, là aussi, oui, les uns et les autres savent que, eh bien, il y a eu... Et là, cette promesse de « tu nous vengeras », là aussi, c'est quelque chose qui court dans tout le livre. Alors, parlons quand même un peu de l'histoire, en dehors de ces clés de lecture. Tout ce qui précède, et tout ça tourne autour d'un procès. Et un procès dans lequel il y a aussi des figures, et là aussi, une autre clé de lecture, le monde de la justice.
L'avocate.
L'avocate, c'est une figure féminine extraordinaire.
Oui. Alors, vraiment, ça fait du bien, parce que c'est un livre quand même qui est très dur. Si les gens sont attachants, c'est quand même un monde dont on n'arrive pas à s'en sortir. C'est bien, bien difficile. Et il y a cette avocate qui est, je ne sais pas, qui est comme une lumière qui nous suit, qui respecte, qui comprend, qui se bat, mais avec des armes... Enfin, j'allais dire des armes désarmantes, parce que c'est un petit peu ça. Elle est quand même désarmante. Elle a un tel respect pour celui qui va se retrouver devant la justice. Elle a un tel respect pour ce silence, parce que là aussi, encore une des clés, mais c'est carrément le trousseau, hein. Y a une description du silence, et la vision de chacun des autres personnages que nous croisons sur le silence du héros, qui est vraiment remarquable. Alors, il y a les silences positifs, les silences négatifs, les perceptions positives. Et il y a aussi une chose que j'ai trouvée extraordinaire dans les protagonistes, c'est la description des psychologues et des psychiatres qui vont... Alors, on devrait... Je ne sais pas si je vais oser dire que c'est croustillant, parce que quand même, il y a une espèce d'humour absolument corrosif. Alors, je ne fais même pas un mauvais jeu de mots, là. Sur la façon dont Sorge Chalande décrit ça, mais c'est fantastique. Non, il est...
Oui, alors ça peut être aussi une autre clé de lecture. Le monde du travail, le patron du principal personnage, les flics qui viennent l'arrêter... En fait, il n'y a pas de posture caricaturale. Ça aussi, c'est assez intéressant. C'est qu'en fait, dans ce roman, tous les personnages sont dans une certaine vérité.
Ah, tu m'as ôté le mot de la bouche. C'est ce que j'allais dire. Dans leur vérité, exactement. On n'est pas univoque. Il y a aucun doute là-dessus. Et ce livre, mais ça, c'est encore une des grandes qualités de Sorge Chalandon, dont je ne ferai jamais assez l'éloge, je ne peux pas m'en empêcher. Il est tellement lui, enfin, j'ai beaucoup discuté avec lui, hein, je pense que c'est une grande chance de ma vie, on a eu 20 minutes tous les deux ensemble, c'était un grand bonheur pour moi, je dois dire. Et voilà, c'est quelqu'un qui, quand j'étais petite, on parlait de sonder les reins et les cœurs, mon grand-père m'avait appris ça, je crois que c'est un livre, et j'ai jamais oublié, et lui c'est ça, et c'est simplement naturel chez lui, et il va falloir à un moment qu'on parle quand même de la mélancolie.
Alors, l'histoire, et puis aussi ce qui court aussi, l'histoire psychologique des personnages, ce déni de la réalité, et ce déni de la réalité, et aussi les regrets. Il y avait, me semble-t-il, dans ce qui concerne la psychologie des personnages, le déni de la réalité et les regrets qu'on peut éprouver. Mais les regrets, ce n'est pas simplement les regrets du personnage principal, mais c'est les regrets de sa victime, qui quelque part, qui est assassinée, mais qui n'est pas tout à fait assassinée, puisqu'on la récupère et qu'on la retrouve, justement, elle est sur le banc de la partie civile, dans le procès. Elle aussi, elle a des comptes. Cette catastrophe l'a aussi marquée, puisque la victime, c'est, dirons-nous, le porion, celui qui mène dans la mine la responsabilité de la sécurité, mais qui est contraint entre la sécurité et le rendement. Et alors, je trouve aussi qu'il y a une certaine modernité, parce qu'aujourd'hui encore, entre le principe de précaution, comment prendre soin des hommes qui travaillent, et puis la réalité économique qui demande un peu moins de soins des hommes peut-être, et puis un peu plus de rendement.
Faute de quoi on ferme. Donc ils sont coincés. Et encore un thème universel. Voilà.
Donc là, il y a aussi dans tous les personnages, cela. Et puis il y a bien sûr les relations aux femmes, à l'épouse. On retrouve aussi ce monde du couple, de l'hôpital, de la mère. Enfin, vraiment, un livre où tous les personnages ont une extrême grande richesse. Et puis, on vous dit, bien, lisez ce livre qui met en scène un procès et tout ce qui va autour, tout ce qui intervient pour expliquer ce qui arrive et tout ce qui intervient aussi pour comprendre et pour aussi voir que certains, dans ce qui leur arrive, considèrent que c'est une espèce d'expiation, quelque chose qu'ils doivent à la société. Et donc, à la limite, ce qui leur arrive, ils trouvent, même si c'est mauvais, que ça doit arriver.
Cette
espèce de fatalité est assez étonnante.
Et ça aussi, ça va avec la mélancolie. Comment arriver à tenir avec ce fond de tristesse dont il ne se départit jamais, mais il arrive quand même à être dans l'action. C'est assez fascinant, ça. Comment être, à la fois être à quoi bon, de toute façon, et en même temps continuer d'avancer. Je trouve que c'est très émouvant, ça aussi, ce plan-là.
Et enfin, quant à l'écriture, il y a une écriture un peu hachée. C'est toujours, comment dirais-je, c'est rapide, c'est incisif.
Et un rythme.
Ma vengeance était éteinte. Tout allait pouvoir être dit. J'ai même eu l'usage d'un costume sombre. Mon reflet de cérémonie dans une porte vitrée, chemise blanche et souliers cirés. J'étais habillée pour être jugée. Je n'avais plus les mains entravées. Je me suis assise dans le box, surveillée par deux mineurs en vêtements de deuil. Dans le public, il y avait Cécile. Elle portait une robe noire d'avocate, avec une drôle de toque qui ne lui allait pas. Elle m'a fait un geste de la main. Ces phrases courtes qui campent les personnages, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Et cette précision, à la fois pour les personnages, mais aussi pour les paysages, pour le monde qui entoure, pour sa mère, pour... bref, que dire?
Lisez-le. Vraiment, lisez-le.
Alors, ce sera le mot de la fin. Donc, le titre, c'est « Le jour d'avant » de Sorge Chalandon. C'est édité
chez
Grasset. Ça coûte 20,90 € et véritablement, c'est le livre à lire et à ne plus quitter. Sur ce, on vous dit bonne semaine à tous.
Au revoir.
Au revoir.